Bonsoir et bienvenue à Fréquence d'Outre-Tombe sur CKRL 89.1. David Rocketship est avec vous jusqu'à 23h30, accompagné de...
Patrick Anctil. On va explorer l'inexploré, expliquer l'inexpliqué et enfin...
flirter avec le paranormal pour Fréquence d'Outre-Tombe. Et ce que j'aime aussi dire ces temps-ci, Pat, t'auras remarqué, c'est que Fréquence d'Outre-Tombe, c'est l'émission qui t'accompagne pour l'apocalypse à venir.
Ben oui, absolument. On le sait que l'apocalypse s'en vient, là. C'est plus juste des prévisions catastrophismes dans les films. C'est du palpable.
C'est du palpable. C'est du vrai. Tout comme toutes nos histoires sont vraies, l'apocalypse est vrai.
Oui, tout à fait.
Cool. Et Pat, t'as passé une bonne semaine?
Ben oui, c'est sûr qu'on a beaucoup de temps à tuer ces temps-ci, hein, mais en même temps, j'essaie de voir ça comme un prix de consolation. Vaut mieux tuer le temps que son voisin. Mais, et voilà, oui, j'ai passé une belle semaine. Sinon, toi, David?
Oui, absolument. J'ai eu la chance de faire une petite balade en Corbière la semaine dernière. Je suis allé porter le crâne que t'as sculpté à Maïté.
Oui,
à Maïté,
oui d'ailleurs... D'ailleurs, très belle vidéo, David, à toutes les auditrices et auditeurs de Fréquence d'Outre-Tombe. Allez voir ça sur notre page Facebook. Ça vaut vraiment la peine. Un super beau vidéo de David Rocketship en train de livrer un crâne en corbillard. C'est vraiment sublime.
Tout ça est sur la page Facebook de Fréquence d'Outre-Tombe. Je vous invite à aller voir. Puis, ce soir, Pat, on a une longue histoire qu'on a à raconter.
Je crois que ça parle de cosmétiques, c'est ça?
Ça parle de cosmétiques, exactement. C'est quelque chose que j'ai rédigé, ça. J'ai commencé à rédiger ça, Pat, au mois d'octobre l'année passée. Okay. Je l'ai rédigé par petits bouts, puis j'ai monté quelque chose un petit peu plus complexe, je vais dire, qu'à l'habitude. Tu sais, ça rentrait vraiment pas dans les formules 7-8 minutes habituelles.
Je comprends.
Ouais, ça fait que ça dure une bonne vingtaine de minutes. Puis, il y a de l'enquête un petit peu là-dedans. Tu sais, je me suis amusé à m'exercer là, dans le un petit peu plus ficelé, je veux dire. Donc,
Ouais, ben j'ai bien hâte d'entendre ça, mais dis-moi, est-ce que Lise Wattier devrait avoir peur? Est-ce que ça va être une solide compétition pour Lise Wattier?
Une très solide compétition. Lise Wattier n'a qu'à bien se tenir parce que...
Let's the show begin!
Cette histoire s'intitule « Les laboratoires Chronix ». Les laboratoires Chronix, c'est une importante compagnie de cosmétiques fondée en 1963 par Madame Alice Blanchard. Ses produits sont soi-disant révolutionnaires, une panoplie de crèmes, d'huiles, de traitements, des lotions qui garantissent une peau éternellement jeune. Fini les rides, adieu les signes de vieillesse, au revoir les traces de l'âge. En tout cas, c'est ce que disent les annonces à la radio puis à la télé. Depuis ses débuts, l'entreprise avait su générer de l'intérêt auprès de ses consommateurs. Les premières ventes ont démarré en trombe et depuis, les chiffres ont toujours battu leurs propres records. Les consommateurs consommaient et les clients restaient toujours fidèles au laboratoire et à Madame Blanchard. Au point où ça a été même devenu un phénomène social qui intéressa les plus grands experts en marketing de l'Amérique et éventuellement du monde entier. Comment l'organisation faisait-elle pour capter et fidéliser une aussi grosse part de marché? La principale hypothèse tentant d'expliquer cet engouement historique, c'était la forte prestance de Madame Blanchard elle-même. Leader naturelle, elle dirigeait l'entreprise d'une main de fer dans un gant de velours, mais c'était surtout son charisme hors pair qui ensorcelait le public. Dans les années 60, Madame Alice Blanchard se présentait comme une jeune femme fière, élégante et raffinée. Elle était aussi particulièrement agréable lors de ses interventions publiques et avait été toujours plutôt généreuse auprès des différentes œuvres de charité. Elle était, de plus, considérée comme très belle. Bref, l'histoire avait fait son travail et Chronix est devenu un empire dans le domaine des cosmétiques. Aujourd'hui, Madame Blanchard en est toujours la figure de proue. Sa prestance et son énergie, qui étaient déjà à un niveau phénoménal à l'époque, ont maintenant atteint un niveau mythique. En bonne représentante de ses produits anti-âge, Alice démontre elle-même une forme physique et une apparence qui tiennent du miracle. Près d'une soixantaine d'années après le lancement de l'entreprise et de sa présence dans l'espace médiatique, Madame Blanchard semble encore à première vue avoir dans la trentaine. Son secret, selon elle, c'est une combinaison de méditation, c'est bon contre le stress, de bonne nutrition, une pomme par jour comme on dit, et bien entendu de l'utilisation quotidienne de ses produits sortis des laboratoires Chronix. Bien que ce soit assez pour convaincre des millions d'utilisateurs qui s'arrachent les produits des tablettes de chez Jean Coutu puis de chez Walmart, Est-ce que c'est assez pour expliquer une jeunesse apparente aussi extraordinaire? Certaines personnes en doutent. Parmi les sceptiques, on retrouve Éric Marchand. Dans la jeune quarantaine, célibataire et accro à son travail, Éric est journaliste économique à la pige depuis des années. Il a passé sa carrière à mettre au grand jour des fraudes et des magouilles orchestrées par des hauts placés de plusieurs grandes entreprises et même d'organisations gouvernementales. Il avait d'ailleurs joué un rôle crucial dans le scandale des conditions de travail inhumaines des employés d'Amazon, payés sous le salaire minimum et qui devaient passer plusieurs heures sans prendre de pause, même pas pour aller aux toilettes. Mais bon, ça c'est une toute autre histoire d'horreur. Revenons donc à Éric. Éric Marchand, journaliste, qui, cette fois-ci, avait les laboratoires Chronix dans la mire. Pour trois raisons qu'il chicotait particulièrement. Premièrement, il savait que l'efficacité des produits en question était discutable. Certains de ses confrères aux quatre coins de la planète avaient déjà démenti depuis longtemps l'effet rajeunissant des soi-disant produits miracles. La deuxième raison qui motivait Éric à enquêter sur Chronix, c'était qu'il voulait vérifier des rumeurs de fournisseurs louches puis peut-être même de trafic humain. Entre autres, il y avait une piste qui indiquait que du collagène utilisé dans certains produits proviendrait d'entreprises russes, inexistantes dans les livres et affiliées avec des camps de travail reconnus pour maltraiter et même éliminer les prisonniers politiques. Donc, s'il réussissait à prouver que Chronix avait des pratiques similaires, il pourrait faire couler beaucoup d'encre. Mais la troisième et principale motivation d'Éric à en apprendre plus sur l'organisation, c'était pas le manque d'éthique de leurs pratiques d'affaires, c'était pas leur approvisionnement, c'était Madame Blanchard elle-même. Depuis qu'il était étudiant, elle l'intriguait au plus haut point. Comment pouvait-elle garder son apparence aussi jeune, malgré les années? En tant que chef d'une grande entreprise, Madame Blanchard avait toujours su protéger son image de façon impeccable, si bien qu'on ne savait pas sa date de naissance ni sa situation familiale. On mentionnait jamais son âge non plus dans les médias. Tout le yoga du monde et tout le shoukale de l'univers pouvaient pas expliquer le fait qu'elle avait l'air d'une trentenaire. Il y avait Anguille sous roche et Éric entendait bien découvrir ce que cachaient Madame Blanchard et son entourage. Son réseau de contacts lui avait permis d'établir un plan de match. Il allait se faire engager par les laboratoires Chronix et enquêter de l'interne. Il se mit donc à éplucher toutes les offres d'emploi, même internes, que ses informateurs lui envoyaient. Le processus dura plusieurs mois. Il voulait trouver un poste qu'il placerait le plus près possible de Madame Blanchard. Sa patience fut récompensée lorsqu'il tomba sur une offre d'emploi où on cherchait un consultant en marketing et communication, particulièrement pour l'image publique de la présidente elle-même. Ce rôle-là le placerait dans son entourage direct. Il pourrait investiguer à sa guise. Mais bien sûr, se faire engager, ce fut pas une mince affaire. Non seulement il fallut se créer un faux CV, un faux portfolio, des fausses références, il fallait aussi se construire une identité crédible qu'il ferait engager à coup sûr, tout en échappant au contrôle de sécurité de l'organisation, les fameux background checks. Avec beaucoup d'huile de coude de la part de ses contacts, il réussit à avoir une rencontre privilégiée avec Mademoiselle Fletcher, la conseillère judiciaire, financière et apparemment très bonne amie de la présidente de l'entreprise. Éric avait bien joué ses cartes, puisqu'il rencontra finalement Madame Alice Blanchard elle-même quelques jours plus tard, dans son manoir. Il fut tout à fait abasourdi par le charme, la prestance et le bagage culturel de la chef d'entreprise. Ce qui le frappa davantage, c'est à quel point elle avait l'air jeune, physiquement, même en personne. Ça contrastait avec la personnalité d'Alice. Il avait l'impression de discuter avec une vieille sage ayant vécu plusieurs vies, mais on lui aurait donné tout au plus dans la mi-trentaine. Ses yeux verts étaient particulièrement imposants. Ils évoquaient une grande intelligence, presque une clairvoyance même. Il semblait percer l'esprit, et Éric avait l'impression qu'elle lisait tout droit en lui, ce qui l'intimidait au plus haut point. Mais le journaliste a su garder une contenance. Il s'informa sur les origines de l'entreprise, sur ses installations, et finalement sur le manoir dans lequel il se trouvait. Madame Alice Blanchard lui expliqua qu'elle n'y habitait pas, mais qu'elle y travaillait et recevait ses invités les plus prestigieux. Certains employés séjournaient ici. Il y avait une cellule de recherche et de développement indépendante et dédiée aux projets spéciaux qui avait son laboratoire à la fine pointe de la technologie dans le sous-sol même du manoir. Quand Éric démontra de l'intérêt envers ces fameux projets spéciaux, Madame Blanchard se contenta de lui dire poliment que ça ne le concernait pas, puis échangea de sujet. Somme toute, cette rencontre se déroula elle aussi comme sur des roulettes, puisque Mademoiselle Fletcher, l'assistante de Madame Blanchard, appela Éric le lendemain pour lui annoncer qu'il avait obtenu le poste. On l'attendait lundi prochain afin qu'il commence ses nouvelles fonctions. Le lieu de travail principal d'Éric était dans le manoir en question. On lui avait installé un magnifique bureau, tout en boiserie, bien fenestré, sur le même étage que Mme Blanchard, elle-même, ainsi que Mademoiselle Fletcher, son assistante. Les deux femmes avaient leur bureau, un en face de l'autre, tout au bout du couloir, passé le grand escalier de bois qui permettait d'accéder au niveau. Il y avait dans l'immeuble toute une équipe de marketing, stratégie, communication. On retrouvait aussi des opérations financières. Puis, évidemment, ce fameux laboratoire de projets spéciaux au sous-sol. L'instinct d'Éric, son instinct de journaliste, fort de plus d'une vingtaine d'années d'expérience, lui indiquait que c'est là qu'il devait commencer ses recherches. Il attendit un banal mercredi pour prétendre qu'il devait rester pour travailler une partie de la soirée. Analyser les résultats d'une étude de marché reçue dans la journée était son alibi. Il était environ 20 heures quand tout le personnel de bureau semblait avoir quitté l'immeuble. Il savait qu'une partie des employés logeait carrément sur les lieux, dans l'aile nord du bâtiment, mais il y avait donc toujours un risque de se faire de croiser quelqu'un. Mais il y avait quelques histoires en tête au cas où ça arriverait pour pouvoir se sortir du pétrin. La première étape était de se procurer une carte d'accès au laboratoire. Il fouilla le bureau de Mademoiselle Fletcher, l'assistante, mais n'en trouva pas. Elle devait la traîner avec elle. Merde. Il trouva par contre un trousseau de clés. Cette partie du manoir, selon les préférences de Mme Blanchard, était restée antique et non rénovée. On pouvait donc ouvrir les portes avec de bonnes vieilles clés. Il décida de prendre une chance. Il prit le trousseau de clés et tenta d'entrer dans le bureau de Mme Blanchard, juste en face. C'était la première fois qu'il remarqua que le couloir était si peu éclairé. Habituellement, le soleil lui donnait un air chaleureux et invitant. Mais le soir, comme c'est le cas présentement, les murs lambrissés et garnis de papier peint à motifs épais étaient plutôt lourds et donnaient l'impression à Éric qu'il tentait de l'engouffrer, de se refermer sur lui. Il eut un léger inconfort, comme une vague et soudaine claustrophobie. Il tenta une première clé, pas la bonne, puis en essaya une deuxième. La clé pénétra dans la serrure, mais il ne pouvait pas la tourner, c'était pas la bonne non plus. Comme il s'apprêtait à tenter sa troisième chance, il entendit des pas qui s'approchaient. Quelqu'un montait l'escalier. Dans la section du couloir où il était, il n'y avait que deux bureaux, celui de Mme Blanchard et celui de Mademoiselle Fletcher, son assistante. Pour retourner à son poste de travail à lui, il devait repasser devant le grand escalier. Donc, il se ferait prendre de façon certaine. Il devait agir et penser vite. Allez, Éric, pense. Les pas s'approchaient toujours, lentement. Il tenta le tout pour le tout et inséra une troisième clé dans la serrure. La porte du bureau s'ouvrit. Il lui entra et la referma derrière lui. Il était à l'abri de regards pour l'instant, mais il était conscient qu'il venait de prendre un énorme risque. Si c'était Alice Blanchard qui s'approchait, elle l'attraperait dans son bureau et il était cuit. À l'intérieur du bureau, dans le noir, il s'accroupit devant la porte et regarda par le trou de la serrure. Il voulait à tout prix savoir qui s'approchait. Il priait pour que ce soit pas Mme Blanchard. La personne atteignit le haut de l'escalier. Il tourna dans le couloir, dans sa direction. Il s'agissait donc fort probablement d'une des deux femmes. Il pouvait toujours entendre les pas, mais pas encore voir de qui il s'agissait. Les pas s'approchèrent, jusqu'à s'arrêter dans le milieu du couloir, juste devant sa porte. Dans l'obscurité, il ne pouvait distinguer qu'une silhouette féminine. Qui était-ce et où allait-elle se diriger? Cette attente insupportable lui parut comme une éternité. La dame finit par pivoter légèrement les épaules vers la droite, loin de lui, et vers le bureau de Mademoiselle Fletcher. Phew! Il était sauf pour l'instant, sauf si celle-ci remarquait qu'il manquait un trousseau de clés dans son bureau. Toujours caché dans la petite pièce, il essaya de suivre, au son, ce qui se passait de l'autre côté du couloir. La jeune dame entra dans son bureau, sembla y chercher quelque chose, puis un long silence. Merde, est-ce qu'elle avait remarqué qu'il manquait un trousseau de clés? Il la vit finalement ressortir de son bureau et barrer la porte derrière elle. Elle jeta un long regard vers la porte du bureau de Mme Blanchard, derrière laquelle Éric attendait patiemment. De sa cachette, toujours en observant la serrure, il pouvait voir son regard. Il eut l'impression qu'elle savait qu'il s'y trouvait. Quelques interminables secondes s'écoulèrent, puis la jeune assistante finit par partir d'où elle était venue. Ouf! Après avoir attendu quelques minutes pour s'assurer que la voie était bel et bien libre, Éric se mit à fouiller frénétiquement le bureau de Mme Blanchard, à la recherche d'une carte d'accès au laboratoire. C'est pas ça sur quoi elle tomba en premier, mais sa découverte était tout aussi intéressante. C'était un album photo qui semblait couvrir plusieurs générations. Il pouvait voir des clichés de Mme Blanchard et des gens qui semblaient être des membres de sa famille. Les premiers étaient récents, Puis plus il feuilletait le large album de cuir brun, plus les images dataient. Il reconnut les années 90 de Alice, puis les années 80, vivement les épaulettes. Ça le conforta dans son idée selon laquelle elle semblait ne pas vieillir. Il s'attarda éventuellement sur un portrait qui semblait dater des années 70 si on se fiait aux voitures en arrière-plan. Elle avait cette fois-ci l'air d'avoir dans la jeune vingtaine. Le regard intense de ses yeux bleus le marqua. Il mit une seconde à comprendre pourquoi. Il se rappelait le regard perçant de la chef d'entreprise puisqu'il la côtoyait à chaque jour. Mais les yeux qu'il est habitué de voir sont verts et non bleus. Bizarre. Il sait que les yeux peuvent changer de couleur avec le temps, mais quand même. Il finit par survoler le recueil d'un bout à l'autre, jusqu'à finalement trouver des photos d'Alice lorsqu'elle était enfant. Ce qui le mystifia cette fois-ci, c'était à quel point ces images semblaient vieilles. Elles étaient en noir et blanc, certaines en sépia. Selon les vêtements que la gamine portait, il aurait pu jurer que ces clichés avaient été pris au début du siècle dernier. Ça faisait aucun sens, ça lui donnerait genre 120 ans aujourd'hui. C'était impossible, elle avait l'air plus jeune que lui. 1000 théories lui passèrent par la tête. Est-ce qu'elle était le résultat d'une anomalie génétique quelconque? Est-ce que ses produits anti-âge fonctionnaient vraiment à ce point-là? Peut-être qu'elle avait découvert des traitements qu'elle se gardait exclusivement pour elle. Il se surprit même à imaginer que Madame Blanchard, en tant que personne publique, était peut-être incarnée par différentes personnes, genre des actrices, au fil du temps. En tout cas, ça expliquerait les yeux qui changent de couleur. Il continua à fouiller le bureau, machinalement, en tentant de rapiécer le casse-tête mental qu'il était en train de se construire. Il tomba finalement, dans une boîte au fond d'un tiroir, sur une petite pile de cartes d'accès électronique. L'une d'entre elles portait, au crayon en feutre, la mention « Master » ou « Carte maîtresse ». Elle allait sûrement lui donner accès au labo. Il partit donc avec la carte, direction le sous-sol. Le sous-sol du manoir mélangeait les styles modernes et classiques. Les murs de pierre et les couloirs en voûte y avaient été conservés, mais toute une panoplie de contrôles d'accès et d'équipements de haute technologie les complémentaient. Le fameux laboratoire se trouvait derrière une énorme baie vitrée. L'accès se faisait par une porte, de verre elle aussi, à côté de laquelle se trouvait un petit lecteur de cartes magnétiques. Sans perdre une seconde, Eric essaya la carte qu'il avait dérobée. Le témoin lumineux tourna au verre et il put pousser la porte qui glissa doucement et lui permit d'entrer. Il se retrouva au milieu d'un couloir sombre. Il y avait des portes des deux côtés. Il opta pour la gauche, par simple instinct. Il avait l'intention d'explorer chaque pièce afin de trouver des indices sur l'étrange statue de Madame Blanchard et les activités des laboratoires Chronix. La première pièce ressemblait drôlement à une salle d'opération. En plein centre se trouvait une table d'acier inoxydable accompagnée d'un petit plateau sur pattes contenant des outils médicaux. Le tout était surplombé d'une énorme lumière chirurgicale, éteinte. Montée sur son bras articulé, la lampe rappelait un énorme membre d'une créature infernale. Eric inspecta la table de plus près. Il pouvait y voir des taches de sang. Il y en avait sur le plateau, sur les instruments, par terre. Cette vision lui donna un frisson. Mais que pouvait bien faire une entreprise de cosmétiques avec ce genre d'installation? Il entreprit alors d'aller inspecter la pièce suivante. Celle-ci était plongée dans la noirceur. Il pouvait à peine voir quelques mètres devant lui. Il utilisa son téléphone portable pour éclairer du mieux qu'il put. La pièce lui donna l'impression d'une morgue. Il y avait quelques tables en inox, sur roulettes. Elles étaient toutes vacantes. Toutes sauf une. De loin, il pouvait déceler qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un sur la dernière table au fond de la pièce. Dans l'obscurité et avec la distance, ça ressemblait à un cadavre couvert d'un drap blanc. Il avança lentement, prudemment. Il ne pouvait pas dire s'il avait peur de se faire prendre ou s'il était inquiet de ce qu'il allait trouver. Mais une lourde angoisse pesait sur son esprit alors qu'il faisait son chemin, inconfortable, dans la pièce noire. Il fit son chemin jusqu'à la table. Il y avait effectivement une forme humaine sous un drap qu'il entreprit de soulever, avec la lenteur que sa préoccupation croissante lui imposait. Il en attrapa un coin et commença à le tirer vers le haut. Il sentit que le drap montrait une légère résistance ici et là, un peu comme s'il était collé sur le corps de façon inconstante, donnant l'impression que de microscopiques pièces de velcro seraient disposées aléatoirement sur la dépouille. Eric tira jusqu'à ce que la tête et le torse du cadavre soient à découvert, puis fit pivoter sa lampe de poche pour l'éclairer. Un intense vertige s'empara de lui lorsqu'il vit le pauvre à la lumière. Il dut s'appuyer sur une des autres tables d'inox pour ne pas perdre pied. La dépouille, de ce qu'il pouvait constater, semblant en fait celle d'une jeune femme. Mais ce qui l'avait assommée ainsi, c'était son état. La malheureuse avait été totalement dépecée. Sa chair et ses muscles étaient à vif et une imposante mare de sang s'était formée sous la table en question. Il comprit maintenant que c'est parce que le drap était figé dans le sang séché qu'il avait été difficile à retirer. Il en déduit qu'elle avait donc été laissée, ainsi, à mourir au bout de ses souffrances. Mais quelle sorte de sordide labeur avait lieu dans cet endroit? Il pivota sur lui-même afin de retourner vers la porte et de sortir de cette damnée pièce. À mi-chemin, il fut surpris par un léger son, comme un très faible murmure ou une forte respiration. Dans un sursaut, il se retourna vers le corps, toujours couché sur son ultime lit d'acier. Son sang se glaça dans ses veines quand il remarqua que le murmure provenait de la pauvre qui, laissée à l'abandon, sans peau sur la table d'inox, n'était pas encore morte, mais arrivait au bout de ses forces. Elle tentait d'implorer Eric dans un murmure indistinct. Il levait même faiblement un bras vers lui, le suppliant du regard. Le journaliste ne put retenir une larme d'empathie. La pauvre était en train d'agoniser, en souffrant, et il ne pouvait rien faire. Il se contenta de prononcer, d'un ton bête et peu convaincant, « Ce sera pas long, je m'en vais chercher de l'aide. » Il sortit de la pièce en quatrième vitesse. Cette fois-ci, il se dirigea vers la sortie. Il fallait absolument avertir les autorités des pratiques bizarres, louches et inhumaines qui avaient lieu dans cet endroit maudit. Dans le couloir, il marchait maintenant d'un pas sûr vers la porte principale de ce foutu laboratoire quand une énorme douleur lui emplit le crâne. Il vit des étoiles, puis que du noir. Pendant une durée qu'il ne put estimer, il était entre le sommeil et le réveil, ou plutôt entre le coma et le réveil, tiens. Inconscient, il ne percevait qu'une lointaine et indistincte conversation. Puis il revint à lui, tranquillement, et il ressaisit ses repères. Chronix, le laboratoire. Le mal de tête, ouch! Ses tempes martelaient l'intérieur de son crâne et chaque battement de son cœur amplifiait son mal de bloc. Sa cervelle n'était pas la seule partie de son corps qui le faisait souffrir. Un intense mal de ventre le tordait de douleur. Il était couché et était incapable de bouger. Il ouvra prudemment les yeux et regarda autour de lui. Des murs de pierre, une porte vitrée. Il était toujours dans ce satané sous-sol. Il comprit qu'on l'avait probablement assommé alors qu'il tentait de quitter cet endroit infernal. À sa gauche, il voyait quelqu'un couché sur une civière. Eric essaya d'attirer son attention. Psst! Psst! Son voisin d'infortune se retourna vers lui en lâchant un long soupir rauque. C'est avec effroi que le journaliste observa que l'infortuné n'avait plus d'yeux. On les lui avait arrachés. Ses paupières flottaient mollement sur deux grands trous béants desquels coulaient deux épais ruisseaux de sang noir. Comme il était, pour la énième fois, en train de se demander ce qui se tramait dans ce labo, quelqu'un entra dans la pièce. Il dut cligner les yeux à plusieurs reprises afin que sa vision ne soit finalement capable de discerner Mademoiselle Fletcher, l'assistante de Madame Blanchard, qui s'approchait de lui avec un regard sévère, mais un sourire en coin, comme si elle avait attendu ce moment. « Éric Marchand, journaliste économique. Vous faites moins le malin maintenant. Pensiez-vous vraiment qu'on ne vous avait pas vu venir avec votre CV bidon et vos fausses recommandations? » Vous êtes à découvert depuis le premier jour, mon cher. » Les questions s'entrechoquaient dans sa tête à présent. Quoi? Qu'est-ce que... quoi? Et elle reprit. Oh, je sais très bien ce que vous cherchez. Vous voulez savoir comment Madame Blanchard fait pour garder son apparence aussi jeune? Ben, tu vois, la réponse à cette question n'est pas uniquement de nature biologique, ni même purement chimique, comme vous le pensiez probablement. Mais c'est plutôt des percées mécaniques qui nous ont permis cet exploit. Mécanique? Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Alors qu'il prononçait ces mots, son ventre lui fit de plus en plus mal. Eric, je pensais que vous comprendriez plus vite que ça. Imaginez une voiture que vous voulez garder le plus longtemps possible. Que faites-vous pour étirer sa durée de vie? Vous remplacez les pièces usagées ou défectueuses, vous vous assurez de mettre de l'huile neuve régulièrement, et à l'occasion, peut-être même une peinture fraîche ou de nouvelles parties de carrosserie, non? Ben, c'est exactement ce qu'on fait ici. La crème pour la peau, c'est du bidon. Les gens l'achètent et finissent par se convaincre eux-mêmes qu'ils y voient un effet, mais c'est illusoire. La seule vraie façon de rester aussi jeune, aussi longtemps, c'est de remplacer des pièces à l'occasion. Puis, voyez, Madame Blanchard est née il y a 132 ans, mais son cœur n'a que quelques mois, et ses yeux sont neufs d'aujourd'hui, eux. Et devinez quoi? Elle a une carrosserie bien neuve qui l'attend, une peau dans la jeune vingtaine qui lui sera installée sous peu. À entendre ses confessions, l'abdomen d'Éric lui lança une ultime vague de douleur. Il regarda enfin vers celui-ci et constata qu'on le lui avait complètement ouvert. Là où il devrait voir son ventre, il n'y avait qu'un grand trou visqueux. Pire, il put voir ses intestins dans un plateau d'inox, juste à côté. Puis Mademoiselle Fletcher reprit. Et puis toi, Éric Marchand, on peut dire que t'en as eu du culot de venir infiltrer notre organisation comme ça. Malgré que ce soit hautement irritant et agaçant d'avoir affaire à des curieux comme toi, il faut dire que ça prend des tripes d'acier pour avoir osé tenter un tel coup. Et ces tripes d'acier vont faire de super pièces de rechange pour Madame Blanchard.
Wow, David, c'était une très belle pièce de viande que tu viens de livrer au public. Et effectivement, je pense que Lise Wattier va être due pour un changement d'huile.
un changement d'huile puis un petit polissage, peut-être.
une petite job de mécanique. Yeah.
Une petite job de peinture. Good. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Je vous remercie d'avoir écouté Fréquence d'Outre-Tombe. On se reparle la semaine prochaine. Passe une bonne semaine, mon Pat.
Yes, bonne semaine David et très belle histoire. C'est très plaisant à écouter et à la semaine prochaine tout le monde. Hey buddy, you're gonna have to go. It's closing time.